journal du midi. Didier Blé.
Merci de nous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue. Élection sénatoriale après le scrutin du samedi dernier, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble selon les observations de certaines organisations de la société civile. Un atelier de consultation portant sur la modification et l'adoption de la proposition d'un décret de loi portant code de l'environnement s'est tenu récemment à Grand Bassam. Nous aurons le point avec Emmanuel Amani. Dans l'actualité sous-régionale, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé ce week-end une alliance défensive. Dans cette édition, un dossier d'actualité vous sera présenté, dossier relatif à un atelier de validation du plan de travail et du budget annuel, revisé pour travaux de mise en service d'une ligne autobus Yopougon-Bingerville, dossier proposé par Emmanuel Amani. En toute fin de journal, le professeur Jean-Marie Kouakou, professeur des universités à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, sera l'invité de la rédaction. Il donnera sa lecture sur le phénomène du retour depuis 2020 des coups d'État militaires. Il sera en compagnie de Soro Adams. Voilà pour le sommaire. Merci de nous retrouver. Excellente mi-journée. Élection sénatoriale du 16 septembre 2023. Walep Côte d'Ivoire, qui a déployé sur le terrain son mécanisme d'alerte précoce et sa plateforme dénommée la Coalition nationale des femmes dans tous les lieux de vote, salue donc une avancée démocratique et dit être satisfait des résultats et de la bonne tenue du scrutin. Suivons les explications de Ovi Kwame Jean-Marc, coordonnateur national du Wanepsi.
Il faut noter une bonne participation des grands électeurs, à savoir conseillers régionaux, conseillers municipaux et autres. Il faut noter aussi que dans l'ensemble, la situation socio-sécuritaire dans les différents chefs-lieux était stable. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs qui ont été relevés. Et en termes d'impartialité, nos observateurs ont relevé aussi que tout s'est bien passé dans un esprit vraiment très démocratique. Il faut saluer aussi le fait que nous avons eu les résultats le même jour. C'est une avancée aussi pour notre démocratie. Il faut saluer la CEI pour cela. Et pour l'ensemble, nous pouvons dire que les résultats sont satisfaisants. Si nous devions faire un commentaire quant au résultat, force est de constater une certaine hégémonie du parti au pouvoir, donc le RHDP, élu dans la majorité des régions, sauf trois, qui sont revenus au PDCIRDA, laissant une nouvelle cartographie politique de la Côte d'Ivoire. L'incident relevé du côté de Toumoudi, assez isolé, ne peut pas remettre en question l'entièreté même du processus.
Ovi Kwame Jean-Marc, coordonnateur national du Walep Côte d'Ivoire. Du côté de la convention de la société civile ivoirienne, on ne le dit pas, de contraire, tout s'est bien passé dans l'ensemble, ce qui dénote selon le président du conseil d'administration de la CSI, de la maturité de la démocratie dans le pays. Nous écoutons Mahamadou Kouma.
Nous avons observé les élections dans les 31 régions et les deux districts anciens du pays. Et on a beaucoup apprécié le déroulement des élections. Tout s'est passé convenablement, sauf que au niveau de l'affluence, elle s'est faite en dedans de six. Sinon, dans l'ensemble, nous pensons que ça a été un scrutin très apaisé et c'est le lieu même de féliciter la CEI pour ce maestria. Et ça dénote pour nous de la maturité de notre démocratie qui est en construction. À Toumoudi, il y a eu quelques malentendus. Je pense que ça a été plus ou moins circonscrit. À Cocody aussi, on a vu des électeurs arriver. Et le temps qu'ils arrivent au bureau de vote, c'était déjà 17h. J'étais témoin de ce petit incident, mais qui a été aussi vite circonscrit. Ils ont été sensibilisés. Ils ont compris que, écoutez, il fallait respecter les règles. Donc ça, nous disons que dans l'ensemble, globalement, ça a été un scrutin apaisé.
Et à l'instant, le président du conseil d'administration de la Convention de la société civile ivoirienne, Mahamadou Kouma. La modification et l'adoption des propositions des décrets de la loi portant code de l'environnement, c'était donc l'objet d'une rencontre. Nous en parlerons au cours de ce programme. Le temps pour nous de revenir sur la conférence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mahamadou Touré. Il était face aux jeunes mardi 12 septembre dernier. Il a animé une conférence de presse sur le thème problématique de l'immigration clandestine, actions entreprises par l'État et perspectives d'avenir pour remédier au fléau. C'était à l'occasion de la première journée de célébration du 20e anniversaire du quotidien L'Intelligent d'Abidjan à l'université Félix-Houphouët-Boigny. Le point avec vous, Linda Ballier.
À l'entame de sa communication, le ministre de la Promotion de la Jeunesse a invité les jeunes à éviter l'immigration irrégulière pour se tourner plutôt vers l'entrepreneuriat. Mais pour lui, la stratégie qui pourrait freiner ce fléau est la suivante.
La première des choses à faire, c'est la sensibilisation en vue donc d'un changement de mentalité. Ensuite, il faut lutter sans merci aussi contre les réseaux clandestins qui organisent donc les filières mafieuses pour faire partie de ces jeux. Et puis, effectivement, il faut continuer à investir massivement à la jeunesse dans l'éducation, dans l'emploi, créer les conditions pour que des jeunes qui veulent se battre puissent trouver sur le sol ivoirien des opportunités pour s'épanouir. Ça, ils sont obligés donc de partir.
Toutefois, selon le ministre, pour améliorer les conditions de vie des jeunes, plusieurs perspectives dans le cadre de l'année de la jeunesse sont en vue. Écoutons Touré Mamadou.
Nous allons recruter 20 000 bénévoles pour les préparatifs de la CAN. Il y a déjà 10 000 volontaires qui ont été recrutés. Nous allons lancer d'ici 2 semaines la carte jeune pour 100 000 jeunes de notre pays. Avec cette carte jeune, ce sont des réductions allant jusqu'à 60% que les jeunes peuvent avoir dans tous les secteurs d'activité sur différents produits. Près de 30 000 jeunes dans les zones frontalières, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vont voir le début de leurs activités dès la fin de ce mois.
Notons que d'ici 2025, le programme jeunesse du gouvernement PJGouv vise à impacter plus d'un million de jeunes, d'après le ministre Touré Mamadou.
Parlons d'éducation dans cette édition. La rentrée scolaire est très timide. Une semaine après le lancement officiel, le taux d'inscription s'élève autour de 50% dans les grandes agglomérations comme Abidjan. Dans la ville de l'intérieur, les salles de classe sont encore vides. Les difficultés sont nombreuses et se rencontrent à tous les niveaux. Selon les explications de Ekoun Kwasi, secrétaire général national de du CINESI, le CINESI, c'est le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire.
Au niveau de l'administration, ils éprouvent quand même quelques difficultés à démarrer effectivement l'année scolaire. Il se trouve que l'année scolaire passée, aucun chef de service, aucun établissement scolaire n'a pu avoir sa dotation en COGES et donc ils ont travaillé à crédit, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés pour s'approvisionner en papier RAM, encre et autres consommables informatiques. Quant à nous, parents d'élèves, où trouver les finances à cette période avec nos nombreux enfants pour pouvoir les inscrire. L'autre problème qui s'est ajouté, c'est qu'il y a la CENI qui est un facteur nouveau pour l'inscription. Les enfants, hormis les grandes villes, étaient en campagne. Ils sont arrivés et ils se voient devant le fait accompli de présenter la carte CENI avant de pouvoir s'inscrire. Ils sont plutôt dans les bureaux d'enrôlement. Les établissements sont quasi vides à l'intérieur du pays. Hein. C'est peut-être à Abidjan que il y a 50% du taux d'inscription. Les élèves sont inscrits en ligne, mais les salles de classe sont malheureusement vides. Parce que tout ce qui doit suivre comme matériel pédagogique pour l'enfant, vraiment le parent, pour l'heure, n'a pas encore les moyens. Quand on remonte dans les villes de l'intérieur, si près de 600 élèves, ils sont autour de 260 inscrits en ligne, mais dans les salles de classe, rien.
Ekoun Kwasi, secrétaire général national du CINESI, syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours donc au cœur de la rentrée scolaire dans la région de Bounkani. Une crise de confiance entre les parents d'élèves et les élèves affecte le démarrage effectif de l'école. Les premiers jours de la rentrée, les parents attendent la liste des fournitures scolaires dûment signées par l'école avant de s'engager dans l'achat des manuels scolaires. C'est le constat fait par notre correspondant en région dans le Bounkani, Jérôme Kwasi.
Dans une librairie de la ville de Bouna, le propriétaire des lieux pensif face à deux frères élèves venus plutôt se renseigner sur les prix.
L'engouement en lui-même n'est pas encore ça, puisque les parents ne viennent pas.
Bamba Abdul Rachid, en troisième. Mon père veut venir acheter les livres lui-même, quoi.
Mais pourquoi il préfère venir lui-même?
Je crois que quand on nous donne l'argent, là, on s'en fait autre chose, ça.
Bamba Mohamed fait une classe de CM2. Les parents ne nous font plus confiance.
Le constat de notre libraire, l'un des plus anciens de la ville.
Madi Adi, librairie Pater au marché de Bouna. C'est les parents qui viennent dans un premier temps avec la liste des fournitures, souvent. Ils prennent le prix, ils s'en vont se renseigner et puis ils reviennent acheter.
Ce que font les enfants avec l'argent des inscriptions et de l'achat des fournitures scolaire. Nous sommes à 20 km de la ville de Bouna.
Keïf Léa Mathias, directeur à l'EPP Panzerani. Il prend cet argent-là pour aller acheter le portable, la chaussure basket, le pantalon jean ou bien la chemise qui coûte 6 000, 8 000 francs.
Un peu plus loin, à 30 km, à Bouko, entre Bouna et Dropo, où les parents d'élèves nous renseignent mieux.
Prince Diko Kaye de Lyon. On peut les donner, il part au marché, il n'achète pas des fournitures, il part acheter des téléphones Android ou bien des téléphones qui sont plus chers.
Comme aux pompiers. Donc voilà pourquoi nous on a préféré attendre attendre les professeurs, ils vont nous délivrer les listes des fournitures, sans donner l'argent à l'enfant. Donc demain, il va te revenir avec crédit encore pour dire que non, c'est insuffisant.
Voilà un peu les problèmes pour lesquels les parents eux-mêmes ont décidé de prendre par la main les soins de leurs enfants.
Selon nos renseignements, n'eût été les inscriptions faites en ligne avec les parents, de nombreux enfants auraient abandonné l'école à cause de cette attitude. Jérôme Kwasi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Merci à vous, Jérôme. Prenons la direction du centre ivoirien où, dans la sous-préfecture de Sakassou, l'eau ne coule plus dans les robinets du village d'Aloko Djakro. Et ce, depuis plus de 15 ans, les difficultés d'approvisionnement en eau potable risquent de s'aggraver avec le nouveau collège dont la localité vient de se doter. Le reportage à cet effet de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Bekè.
Ça fait plus de 15 ans que l'eau ne coule même pas dans les robinets. Nous avons l'addition sur les cimes, il n'y a pas l'eau dans nos robinets. C'est depuis la crise de 2002 à 2010 là, qu'il y a eu l'interruption.
Les propos de Kona Kwame Guy Roland, président de la mutuelle des cadres du village d'Aloko Djekro, traduisent les difficultés d'approvisionnement des populations en eau potable. Confirmation d'une sage-femme.
On n'a pas l'eau, hein. On peut faire des semaines sans avoir de l'eau. C'est qu'on gagne, on fait un peu. Ça pose problème si tu fais plus de 2 semaines sans avoir de l'eau pour une maternité.
Le centre de santé paye un lourd tribut de cette pénurie d'eau selon l'agent d'hygiène.
On prend le vélo, on va au barrage pour aller prendre de l'eau pour nettoyer le sang. Quand il y a les blessés, même souvent, on a les problèmes d'eau pour laver les matériels.
Le seul forage dont dispose Aloko Djekro ne suffit pas à alimenter le village.
J'ai fait 8 ans ici, j'ai des problèmes d'eau. Notre leader qui était là, qui nous a envoyé un peu d'eau, il est décédé, ça crée des problèmes.
Il n'y a pas l'autre, pas creuser, ça ne veut pas venir. Donc on pouvait ne pas creuser. J'en fais 3, 2 ne sont pas venus.
Nous avons un barrage même qui a pratiquement tari. C'est là-bas que la population va pour faire la lessive, la vaisselle et autres.
Avec le nouveau collège de proximité dont bénéficie la localité, la situation risque d'être alarmante avec le personnel enseignant et administratif qui vont grossir la population.
L'école même qui vient d'être finie, il n'y a pas d'eau. Imaginons 3 mois, 6 mois après, sans eau, ça sera du gâchis. Je demande aux autorités de tout faire pour que la SODECI puisse mettre l'eau dans nos tuyaux maintenant. Puis, si possible aussi, construire des forages dans nos villages. Ça résout beaucoup de problèmes.
Joseph Assalé, Sakassou, Radio de la Paix.
Dans l'actualité africaine, les militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les régimes militaires de ces pays ont signé samedi à Bamako une charte établissant une alliance défensive. Cette charte du Liptako-Gourma crée l'alliance des États du Sahel, a écrit sur X, ancien Twitter, le chef de la junte du Mali, Assimi Goïta. Son but est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Et le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, d'ajouter que cette alliance sera une conjugaison des efforts militaires et économiques entre les 3 pays. À présent, notre dossier d'actualité, les travaux de mise en service d'une ligne autobus entre Yopougon et Bingerville débuteront en janvier 2024 pour une durée de 36 mois. C'est ce qu'on retient de cet atelier de validation du plan de travail et du budget annuel révisé PTBA 2023, initié par le ministère des Transports dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Les détails de cette rencontre dans ce dossier de Emmanuel Amani.
La mise en circulation d'un service rapide d'autobus dénommé Bus Rapid Transfer, BRT, pour la ligne Bingerville-Yopougon, telle est la composante majeure du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA. A cet effet, un atelier de validation du plan de travail et du budget annuel révisé s'est tenu ce mercredi 13 septembre à Cocody. Réunis entre autres autour de la table de discussion, les coordonnateurs du projet, le représentant du district d'Abidjan et celui du ministère du budget et du portefeuille de l'État. Pligeya Ali Koulibaly, coordonnateur adjoint du PMUA, nous donne l'état d'avancement de la réalisation du projet.
À ce jour, on peut dire que nous avançons allègrement vers l'opérationnalisation de la composante principale du projet, donc qui est la construction de la ligne de BRT. Nous venons de lancer l'appel d'offres pour sélectionner l'entreprise qui va réaliser les travaux du BRT.
Il nous donne également le délai d'exécution et d'exploitation.
Nous prévoyons le démarrage en 2024 pour environ 36 mois. Donc 3 ans, donc on sera autour de 2027, la mise en exploitation de la ligne de BRT.
Concernant les implications et le coût du projet, voici les précisions qu'il apporte.
En termes de prévision, nous sommes autour d'environ 200 milliards de francs CFA pour les infrastructures du BRT, les stations, les voies, les ponts à construire, les deux dépôts à construire, donc les deux dépôts d'autobus. Tout ce qui est travaux d'amener de l'électricité autour, donc nous sommes autour de 200 milliards de francs CFA.
200 milliards de francs CFA, un montant prévisionnel, d'où cet atelier de validation du plan de travail et du budget révisé PTBA 2023.
Le BRT, c'est un montant énorme. C'est l'une des raisons pour la révision du PTBA, c'est vraiment d'arriver à maîtriser le coût et également à prendre en compte les autres activités qui avaient à un moment donné été un peu mises en veille.
Notons que le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, c'est quatre activités dont la principale reste la mise en circulation d'un service rapide d'autobus dénommé Bus Rapid Transfer, BRT, pour la ligne Benjerville-Yopougon, cofinancée par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé.
À présent, place à l'invité de la rédaction, le professeur Jean-Marie Kouakou, professeur de lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, observateur au quotidien de la scène sociopolitique africaine, pose son regard sur la multitude de coups d'État militaires enregistrés depuis 2020 en Afrique de l'Ouest, singulièrement dans les anciennes colonies françaises. Le dernier en date, celui est intervenu au Niger en juillet 2023. Le professeur Jean-Marie Kouakou donnera sa lecture de ce phénomène en entretien conduit par Soro Adams.
Bonjour professeur Jean-Marie Kouakou.
Bonjour monsieur Soro.
Coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina, coup d'État en Guinée, coup d'État au Niger. Pourquoi tant de coups d'État selon vous dans la sous-région?
Je crois que déjà vous faites bien d'insister sur la répétition. Vous avez aligné sous forme d'inventaire ces coups d'État. Mais je crois que la répétition c'est toujours le début de la signification. Bon, pourquoi tant de coups d'État dans notre région particulièrement, et puis particulièrement en Afrique de l'Ouest? Je dirais précisément en Afrique francophone. L'Afrique de l'Ouest, il y a quand même des anglophones. Et le silence radio dans les États anglophones et beaucoup de bruit dans les États francophones. C'est la grande question à se poser. Et je crois que, évidemment, le fait que ce soit francophone incite à s'interroger d'abord sur la présence française, peut-être. L'Élysée ne s'est peut-être pas posé les bonnes questions. Il y a eu des coups d'État, et chaque fois qu'il y a eu le coup d'État dans tous ces États, on a observé le même principe, le même schéma. Le coup d'État est déclenché, on s'en prend d'abord à la diplomatie française, c'est-à-dire l'ambassade. Et derrière la diplomatie, on s'en prend au régime qui incarne cette diplomatie, donc la politique française. Donc la présence de la France en Afrique, du point de vue politique, la gestion de l'Afrique par la politique, par le régime politique français. D'abord le diplomatique, le politique, et aussitôt après, on s'en prend au militaire, présence de l'armée française. C'est toujours le même schéma qui s'est opéré et qu'on a observé dans tous ces trois pays, tout au moins dans les trois derniers pays.
Alors, quelle signification tout ça?
Apparemment, toujours chaque fois que le coup d'État a lieu, la version officielle, la première qui est déclenchée, en tout cas, c'est toujours la question du terrorisme. On dit la présence française n'aide pas à la résolution terroriste, et c'est pourquoi l'armée prend ses responsabilités pour remplacer un régime civil. C'est ce qui est toujours dit au départ. Mais au bout du compte, on se rend compte que ce qui est aussitôt après dénoncé, ce sont les accords avec la France, c'est la présence française elle-même qui est dénoncée. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, aujourd'hui on a peut-être une population, en tout cas dans les États francophones africains, qui est plutôt très différente, qui est complètement différente des gens de notre âge à nous, de notre génération, et qui est devenue de plus en plus nationaliste et souverainiste, et qui comprend de moins en moins la présence française, et d'ailleurs ce qu'on appelle derrière tout ça la France-Afrique. Et de plus en plus, ça devient un outil utilisé par les oppositions aux régimes en place. Voilà. Et donc du coup, ça marche apparemment, puisque ça devient très populaire. Je dirais même populiste.
Alors donc, une population aujourd'hui jeune, totalement différente de la population de nos générations. Expliquez à mon cousin d'Adjamé, simplement.
Oui, mais je voudrais dire simplement que il y a une époque où on a parlé de la France-Afrique depuis les années 60, en fait. C'est-à-dire il y a eu la période coloniale, il y a eu la décolonisation. La plupart des colons sont tous partis. Mais disons que la France coloniale est partie sans partir. Elle est restée en mettant en place des accords qui ont lié ces États avec elle. Les accords sont d'ordre militaire, c'est-à-dire présence française, base militaire française dans les États en question, et des accords au niveau monétaire et économique par la disposition du franc CFA et de tout autre, par le dépôt de certains avoirs sur le trésor français. Enfin bref, il y a une série d'accords qui ont lié les deux parties. Depuis donc 1960, ces deux États-là,
colons et colonisés sont restés liés d'une certaine manière, mais à l'époque, ça a été accepté par les populations africaines. D'ailleurs, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment, je dirais, de discours démocratique qui pouvait accéder à ces peuples. Et donc, la question a été relativement bien gérée par les régimes politiques en place, par les pouvoirs politiques en place. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a les réseaux sociaux, on a des jeunes qui voyagent, on a la télévision, et tous ces jeunes-là comprennent aujourd'hui qu'il y a un problème quelque part. Et ils dénoncent cela. Et les oppositions à ces régimes en place, qui sont encore jusqu'à présent restées liées à l'Élysée, ces oppositions ont compris le système, elles s'adressent directement à ces populations jeunes. Elles leur disent, voilà, votre pays est ainsi, vous ne pourrez jamais avoir accès à ceci, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, parce que, voilà, donc ce discours-là passe. Et malheureusement, l'Élysée, aujourd'hui, n'a pas compris qu'il y avait problème. Et l'Élysée reste encore dans ses dispositions et continue à donner des ordres. Et du coup, ça devient de moins en moins compréhensible, de moins en moins acceptable pour ces populations.
Et donc, une sorte d'échec de la politique française aujourd'hui.
Je pense que surtout, oui, en Afrique francophone, le discours ne passe plus. Le discours de la France-Afrique ne passe plus. Le système France-Afrique ne passe plus. Tout le monde, il passe de moins en moins. Et l'Élysée ne prend pas conscience de cela. Il donne encore des ordres de manière paternaliste et de manière autoritaire.
La France n'a rien compris en ce qui concerne les mutations du monde.
Exactement. Et surtout les mutations de l'Afrique. L'Afrique est en plein essor. Elle a une population qui est majoritairement jeune d'ailleurs, qui n'est pas du tout dans la relation ancienne avec la colonie. Oui.
Je vous remercie, professeur Jean-Marie Kouakou.
C'est moi qui vous remercie vraiment, monsieur Soro.
C'était le professeur Jean-Marie Kouakou, professeur des universités à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. L'invité de la rédaction était interrogé par Soro Adams. Élection sénatoriale après le scrutin de samedi dernier, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble, selon les observations de certaines organisations de la société civile. Rentrée scolaire une semaine après, le taux d'inscription s'élève à environ 50% à Abidjan et à l'intérieur. Les parents et les élèves traînent encore les pas, selon le CINESI. Et puis dans l'actualité sous-régionale, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé ce week-end une alliance défensive. On se retrouve à 15h pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. La suite, c'est avec Aoussi Potin pour la revue de presse.
Bonjour. La Côte d'Ivoire.